Et oui, c'est le dernier podcast que je vous sors de l'année 2019. Je suis vraiment content de cette dernière année. Plein de surprises, en fait. Je m'attendais pas à autant aimer ça, tourner les podcasts, créer le podcast que j'ai fait, le Smith Vibes. Ça a vraiment été une découverte. Le monde du podcast, c'est particulier, mais je pense que ça m'a vraiment fait découvrir une nouvelle passion. J'ai vraiment eu des invités exceptionnels. J'ai appris à apprendre les gens vraiment plus en profondeur que ce que je les connaissais déjà. J'ai même appris à connaître des gens que j'avais jamais parlé avant. Ça m'a aussi permis d'avoir des interactions, d'apprendre à comment interagir justement avec des gens que j'avais jamais connus auparavant. Donc, d'initier ces conversations-là, puis d'aller vraiment creuser profond. Bref, au mois de décembre, j'ai tourné aucun podcast, mais j'avais un bon line-up de gens qui me restent encore à sortir. Donc, il reste quelques podcasts, en fond, d'invités pour vraiment terminer la tournée 2019, si on veut. Donc, c'est pas mal ça. Bref, à suivre sur cette histoire-là. Je suis content de rapper ça 2019 avec Pierre Grouillet. Un entrepreneur dans le domaine du vélo de montagne, un pionnier, si on veut, un petit Français. Je vous laisse vous en apprendre un petit peu plus sur lui plus tard, vous comprendrez pourquoi j'ai dit ça. Mais ce qui est drôle, c'est que Pierre, il est d'ailleurs devenu un nouveau membre de Smith Coaching quelques semaines après le tournage. Donc, il s'est vraiment investi dans son entraînement, puis le suivi avec lui, il est vraiment parfait. Donc, c'est vraiment sharp les relations que j'ai développées avec Pierre. Je le connaissais un petit peu avant de tourner le podcast. On se croisait dans des événements, mais depuis le podcast, là, on s'est vraiment rapprochés. Puis, c'est vraiment le fun de travailler avec lui. Je vous en dis pas plus long. Je vous laisse aller là-dessus. Puis, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Et puis, on se reparle l'an prochain. See ya! Check this out! New name
alert. It's the Smith Vibes Podcast.
Très très cool. Alors aujourd'hui, Smith Vibes Podcast avec le premier français ever, man. Le premier français au Smith Vibes. Merci d'être là, Pierre.
Ça me fait plaisir. Merci à toi de nous rendre visite.
Crime, c'est vraiment hot le setup. Fait que là, dans le fond, là on est au
Technologe.
Donc là, Pierre, en gros, là, j'aimerais juste vous l'introduire un petit peu plus. Pierre, c'est un des pionniers un peu des entreprises comme des magasins de vélos au Québec, si on veut. Très bien impliqué aussi dans la communauté. Donc, décris-nous un peu ton passage à... D'où c'est que ça a commencé tout ça? Les bike shops, la mécanique, Technologe justement...
Je vais faire un petit historique. Il y en a pour un petit bout parce que ça commence à faire un petit peu de temps que je suis là. je suis arrivé au Québec en 2006, au mois d'août 2006. Je suis arrivé dans le cadre d'un échange universitaire en fait. Je suis une formation d'ingénieur et je suis venu faire ma maîtrise en génie industriel à Polytechnique Montréal dans le cadre d'un double diplôme en fait. Fait que je suis arrivé au Québec avec une valise puis un vélo. Un petit bike de street, puis je m'étais dit ça va être mon moyen de déplacement au début, puis ça va me permettre de rencontrer du monde assez rapidement dans le vélo, puis justement de voir un petit peu la scène québécoise, comment ça fonctionne, est-ce qu'on a un peu les mêmes genres de... 2006, ça fait okay. 13 ans déjà, ouais.
Okay.
Voilà, fait que assez rapidement, c'est ça, j'ai fait un petit peu le tour des bike shops, regardé un petit peu quel genre de bike shop me correspondait un petit peu plus à Montréal, fait une coupe de contact comme ça. Et puis, en parallèle en fait à ma maîtrise, assez rapidement, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir un visa de travail étudiant, j'ai commencé à travailler dans un bike shop qui s'appelle Kiliko. Ils sont rendus à 5 maintenant.
Oh shit, mais il y en avait juste un à l'époque.
Il y en avait deux. Moi, la semaine que j'ai commencé, ils venaient d'ouvrir leur deuxième magasin. Donc, il y en avait un à Montréal sur la rue Masson, puis un autre à Sainte-Thérèse sur la rive nord de Montréal.
Mm.
Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Fait que je suis rentré comme mécanicien à temps partiel là-bas pour le fun. Puis pour faire un petit peu d'argent de poche aussi pour pouvoir payer la passe à Bromont, les sorties ouais. de mountain bike. Puis ben, de fil en aiguille, j'ai fait une saison et demie là-bas. Ensuite de ça, ben, j'ai été approché par le représentant de marins au Québec qui s'appelle André Lecomte, qui m'a proposé en fait d'être mécanicien pour pour son équipe de vélo de montagne sur les Coupes Québec, Coupes Canada, etc. Et c'est un petit peu là que je me suis mis le doigt dans l'engrenage en fait de l'industrie du vélo au Québec.
C'est ça, c'est un peu cet élément déclencheur-là
Vraiment.
qui te sharpen the
Vraiment.
axle.
Ouais. Je suis vraiment reconnaissant envers André justement par rapport à l'opportunité que j'ai eue parce que j'étais encore aux études, j'étais encore comme en mode français qui visite le Québec. Puis là, j'avais la vanne de l'équipe, que je pouvais me déplacer sur tous les événements au Québec, les Coupes Québec, les Coupes Canada, etc. On se promenait pas mal. Moi, ça me permettait de visiter le Québec en même temps en alliant ma passion. Donc, c'est ça, j'étais mécanicien pour tout le volet vélo de montagne. Donc, on avait des gants en cross-country puis des gants en descente. Puis c'est un peu comme ça que j'ai rencontré un petit peu tranquillement toute la communauté de ben, vélo de descente puis vélo de montagne au Québec en général.
Nous, on s'est connus quand? C'était en quelle année? Tu t'en souviens-tu?
Je te dirais peut-être 2008, 2009, 2010, là, sur le
Ouais,
circuit de la Coupe Québec,
ok.
Coupe Cannes.
C'était les années que le Downhill était un peu plus populaire aussi.
Ouais, ben moi je me rappelle le premier événement que j'ai fait, c'était Mont-Tremblant, Coupe Canada Mont-Tremblant, puis je pense qu'il y avait 400 inscrits pour la partie DH. On est loin de ça maintenant, malheureusement.
Fait que là, dans le fond, ça s'est passé comme ça. Puis là, t'as ouvert un bike shop à par la suite.
Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 2 ans comme ça avec Marin sur les événements, puis quand j'ai fini ma maîtrise. C'était pendant la crise de 2008-2009, la crise aux États, et j'avais pas fini mon immigration tout à fait. Puis à la blague, j'avais dit à André, j'avais dit, ben, c'est pas grave, si je trouve pas de travail, je vais me partir en bike shop marin à Montréal. Puis
Déjà les grosses ambitions.
ouais, c'est ça. Puis j'avais quand même dans l'idée éventuellement de partir quelque chose dans le vélo, mais c'était comme pas comme décidé encore, mais. En lançant ça, je pensais pas que ça ferait des petits aussi rapidement. Il m'a comme quelques temps après, il m'a demandé si j'étais sérieux avec ce que j'y avais dit. Puis 2 3 semaines plus tard, il me dit bah, écoute, si jamais c'est vraiment sérieux ton projet, Marin serait prêt à t'aider dans le démarrage de la boutique. On serait prêt à mettre de l'argent pour t'aider à ouvrir la boutique, puis on serait prêt à t'aider aussi à supporter l'inventaire les premières années pour que ça soit plus facile. Fait que j'avais une belle opportunité entre les mains. C'est une compagnie avec qui je travaille depuis 2 ans. Puis j'étais vraiment satisfait de la façon dont ils travaillaient et puis dont ils traitaient les partenaires d'affaires, les employés, etc. Fait que c'était vraiment. Je trouvais que c'était un bon fit. Puis c'est vrai que Marin au Québec n'était pas super bien implanté. Fait que ça me laissait quand même beaucoup de place pour justement essayer de prendre nos marques. Et donc assez rapidement, j'ai trouvé un local. En fait, j'ai reloué le local de l'ancien Cycloperformance sur la rue Saint-Denis. Et une fois que, dans le fond, que le local a été loué, ben, je suis allé me chercher un associé avec qui j'avais travaillé chez Kiliko, justement, Yannick Guimond, qui est encore le propriétaire actuel de Momentum. Puis c'est ça, on a parti Momentum. Dans le fond, on a incorporé la compagnie fin septembre 2009. Et on a ouvert le magasin en février 2010. Fait que ça a quand même été assez vite.
Quand même, hein?
Ouais, fait que ça c'était la première boutique. Fait que moi j'ai fait un peu plus de 2 saisons là. Après 2 saisons, je savais pas trop si je voulais continuer en commerce de détail. Est-ce qu'on ouvrait une deuxième boutique? Est-ce qu'on faisait. Comment gérer la croissance de tout ça? Ça allait super bien en fait dès la première année. On a eu des résultats vraiment au-dessus de nos attentes, mais c'était énormément de travail. Puis moi c'était ça qui me buguait un petit peu. Puis je savais pas si j'allais rester au Québec ou si je rentrais en Europe. En fait, j'avais dans l'idée de peut-être rentrer dans l'Europe pour une durée indéterminée, puis pour revenir peut-être après éventuellement. Fait qu'en 2012, j'ai revendu mes parts à mon associé. Puis j'ai comme pris un break de vélo pour quelques mois.
Ah, c'est vrai?
Ouais,
Ok, t'étais complètement, t'es comme complètement sorti du
ouais,
domaine.
j'ai travaillé en finance un petit peu,
C'est
mais
vrai?
assez rapidement,
Ouais.
j'ai re-switché dans le vélo.
J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive fréquemment avec des gens extrêmement passionnés comme toi, ils vont à fond à la caisse dans un domaine, puis que leur manie ils se brûlent parce que justement, ils savent pas plus où s'arrêter, puis que là, finalement, ils réalisent que ah shit, finalement c'était... j'étais dans la bonne voie, c'est juste ça. Que je savais pas comment me gérer.
C'était un peu ça. Puis on était jeunes aussi là, quand on a démarré. Moi j'avais 25 ans, puis Yannick avait 21 ans.
Waouh.
On était des bébés là. C'était...
Mais quand même, tu sais, du guts.
On avait de l'énergie, on avait, tu sais, pas d'hypothèque, pas d'enfant, on avait on faisait des grosses semaines. On faisait des très grosses semaines.
Ah, c'est très
chouette. On rentre à 7h le matin, puis à 11h le soir, on est encore là des fois. Là. Fait que c'est sûr que les deux premières années, on s'est vraiment brûlé.
Ok.
Mais ça, on a passé au travers, puis ça a super bien été après. Mais...
Ah, c'est fort ça. Ouais. Puis là, après ça, dans le fond, vous avez ouvert une deuxième boutique finalement?
Alors, moi, quand j'ai vendu mes parts à Yannick, il a fait un an tout seul pour se réorganiser. Puis, mais quand j'ai vendu, on avait déjà spoté un local dans le coin de Terrebonne. Puis c'est ça, dans le fond, ça a pris un peu plus de temps que ce qu'il aurait voulu. Mais avec leur achat, ben, ça a juste reporté l'échéance un petit peu. Mais je pense que c'est en 2013 qu'il a ouvert Terrebonne dans le local qu'on avait repéré. Fait que c'est cool, ça a été un super bon move aussi. C'est une super belle boutique, puis très très bien localisée à Terrebonne. Fait que c'est ça, je suis vraiment content de la tournure que ça a pris, même si je suis plus impliqué là-dedans du tout.
Ouais.
Puis moi, en parallèle à ça, ben c'est ça, j'avais changé de domaine, mais j'étais quand même encore impliqué un petit peu de loin, si on veut. Je donnais encore de la formation chez Technocycle, qui est comme l'école de mécanique.
Mais fait que là, Technocycle, tu avais déjà fondé
je donnais
ça?
Je l'ai racheté, Technocycle, en fait. La fondatrice de Technocycle, c'est Denise Belzile.
Okay.
C'est une dame qui a presque 60 ans, qui va avoir 60 ans cette année.
C'est vrai, ouais.
Et l'école, ça fait un peu plus de 20 ans qu'elle existe.
Ok.
Il y a beaucoup de mécanos qui sont passés entre ses mains dans toutes ces années-là.
C'est juste que maintenant, t'es très associé, dans le fond, avec Technocycle.
Ben, Technocycle, en fait, maintenant, c'est moi le propriétaire. Ouais, j'ai racheté Denise. C'est une relève d'entreprise, en fait. Donc, c'est ça. Je suis rentré comme associé avec elle en septembre 2013. Puis, j'ai fini le rachat des parts fin 2015. Ça a été une transition de 2 ans, finalement. Ça a super bien été. Et j'étais formateur avec Denise depuis 2009. Donc, j'en donnais déjà de temps en temps de la formation en parallèle à Momentum, en parallèle à Kiliko, même à l'époque. Fait que c'était vraiment... c'est ça, là. C'était comme une suite logique, si on veut. Quand Denise a su que j'avais vendu Momentum, puis que je regardais pour peut-être revenir dans le vélo, elle a dit, ben regarde, moi, je suis proche de la retraite. Si jamais t'es intéressé, je serais prêt à vendre mon entreprise. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est assis, puis à partir de ça s'est quand même fait assez rapidement, je te dirais peut-être après 2-3 mois, j'ai embarqué à temps plein dans Technocycle, puis ben, dans le fond, c'est ça, j'ai commencé à racheter.
Technocycle, tu sais, dans le fond, c'est ce qui est cool avec ça, c'est que c'est vraiment une formule, la seule formule d'éducation un peu en mécanique de vélo là, au Québec. Là.
À ma connaissance, au Québec, on est les seuls pour tout ce qui est monsieur, madame, tout le monde. Donc, les gens qui veulent apprendre à réparer leur vélo, à être autonome avec la maintenance sur leur vélo. Puis, au niveau corpo, au niveau boutique et tout ça, je pense qu'il y a un projet avec la commission scolaire de Montréal.
Okay.
Je ne sais pas où ça en est rendu, honnêtement, mais je pense qu'il y avait un AEC qui était en train de se mettre en place. La première cohorte doit être en train de se faire former. Mais c'est sûr que c'est des besoins un petit peu plus spécifiques, c'est beaucoup plus ciblé comme formation. Quelqu'un qui veut apprendre à réparer son vélo ne va pas se lancer dans une formation de 600 heures. Là. Nous, c'est des formations beaucoup plus courtes, c'est 7 heures, 14 heures, donc c'est une journée ou deux journées, c'est principalement les fins de semaine. Et puis après, ben, quelqu'un qui veut comme une formation un petit peu plus complète, ben, va prendre plusieurs modules justement de 7 heures ou 14 heures. Puis on fait aussi de la formation comme sur mesure, si on veut. Puis les boutiques embarquent de plus en plus. En fait, ça, c'est un volet chez Technocycle qui prend de plus en plus de place parce que Emploi Québec reconnaît la valeur de nos formations. Fait que on n'est pas accrédité officiellement, mais
fortement suggéré.
Sont capables d'avoir les boutiques, généralement, quand ils envoient des mécaniciens en formation chez nous, sont capables d'avoir des subventions.
Oh, ok.
Que ce soit pour leur salaire et pour la formation en tant que telle. Fait que c'est quand même super intéressant pour eux parce qu'ils sont capables de former leur mécano en approfondissement pour un montant dérisoire finalement.
Okay.
Versus ce que ça leur redonne dans la shop après. Là.
Puis là, dans le fond, tout ça, ça l'a transitionné à ça, mais là, dans le fond, à la dernière étape un peu du processus, puis dans lequel tu es en ce moment, ouais. C'est Technologue. Donc,
exactement, ça c'est la troisième.
Fait que c'est une association un peu avec...
avec le café au Lodge, Café plein air à Saint-Sauveur, donc avec Julien et Audrey. Mm-hmm. Puis pourquoi Saint-Sauveur, je me fais souvent poser la question. Ouais. En fait, c'est que moi j'ai déménagé à Morrow Knights, j'ai pris la décision de déménager à Morrow Knights en 2016, l'été 2016. J'ai grandi à la campagne, puis la ville c'est bien, mais j'étais un petit peu tanné là. J'avais besoin de retourner un petit peu plus dans la nature, d'être plus proche des activités, puis avec deux petits gars, ben, justement aussi d'avoir la possibilité de les faire grandir dans un environnement un petit peu plus vert, un petit peu plus grand,
okay.
Un peu plus comme moi j'avais eu finalement quand j'étais gamin, puis c'est un peu ça que je voulais reproduire, je pense. Et c'est sûr que par contre, ben, le fait d'être habitant à Morrow Knights, puis d'avoir une entreprise à Montréal, c'est beaucoup de voyagement. Ouais. Donc j'essayais de trouver comme une formule pour pouvoir me rapprocher de la maison. Mais en gardant Technocycle quand même, parce que j'aime vraiment beaucoup cette entreprise-là, puis l'aspect enseignement est vraiment très intéressant.
Puis là, dans le fond, ça c'est le... La fournaise, c'est quoi qui est parti?
Le compresseur. Oui, on est dans une shop de vélo.
That was awkward. Mais ouais, fait, ce que je trouve cool, c'est qu'au Lodge, je l'ai découvert un petit peu en essayant de trouver, en faisant un peu du café scouting sur les internets. Puis il n'y en a pas beaucoup à l'extérieur de Montréal, non, du ça. Moins de qualité en ouais. tout cas. Puis dans un deuxième temps, même comme. Il y a comme une nouvelle formule qui vient de se passer. Ah, c'est plus doux maintenant, de toute façon.
Ça va mieux.
Puis là, il y a le petit stop à Bromont. Puis ça commence. J'ai comme l'impression que vous avez fait ce que plusieurs voudraient faire, mais qui n'ont pas le guts de le faire. Puis je pense que c'est une belle réussite. Vous avez fait une belle campagne aussi de
sociofinancement.
Puis là, tout l'été, moi, de mon côté, je suis venu. Puis tu sais, ça roule, c'est le fun, le café est constant à chaque
fois. On manque pas d'ouvrage.
Non, c'est ça, sûrement pas. Mais si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, quelque chose que je voudrais qu'on regarde un petit peu plus, c'est un petit peu, c'est quoi la réalité maintenant des magasins de vélo avec tout le nouveau modèle plus digital, le truc en ligne. Tu sais, c'est où qu'on se place en tant que boutique de vélo?
Ça, c'est quand même assez... c'est une bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de matière à développer là-dessus. Mm-hmm.
Est-ce que là, dans le fond, ce que je remarque, c'est peut-être que c'est plus... peut-être que vous vous spécialisez peut-être un peu plus en mécanique de vélo, vous êtes des...
On est vraiment une shop de service, ça ouais. C'est sûr que ouais. c'est vraiment comme ça qu'on s'affiche, puis je pense que c'est là où on essaye de se démarquer. Puis à date de ce qu'on voit, vu les résultats qu'on a, je pense qu'on fait très bien avec ça. Moi, dans les commerces de détail, ouais. vélo au Québec... De ce que j'ai pu voir avec Technocycle, avec mes clients corporatifs, c'est qu'en gros, tu as à peu près trois modèles de bike shop, si on veut. Tu as le petit bike shop, vraiment core, justement vraiment axé sur le service. Très peu d'inventaire, qui va vendre beaucoup de pièces mécaniques, qui va faire beaucoup de services. Donc, ce sera pas toujours super beau, mais par contre, c'est ça. Si tu veux que ça roule, il faut que ton service soit irréprochable.
Ouais. Irréprochable, j'aime ça.
Ça, généralement, on essaye. Ça, généralement, ça marche bien parce que les coûts d'opération sont très bas.
Ouais.
Le loyer est très bas. Généralement, la personne dans l'atelier, c'est le propriétaire de la boutique
ouais.
ou un employé aussi, qui est très impliqué, qui a ouais. vraiment à cœur que ça fonctionne. Par contre, ben, quand ces gens-là ne travaillent pas, ben, il n'y a pas d'argent qui rentre.
Mm-hmm.
Fait que faut quand même, c'est ça, c'est vraiment orienté service. Fait que faut qu'il y ait de la matière qui rentre, faut qu'il y ait des vélos à réparation, sinon c'est difficile à vendre. Souvent, c'est des boutiques qui n'ont pas un gros marketing, qui n'ont pas nécessairement de site internet, qui au niveau communication, c'est ça, sont pas au top. Mais c'est vraiment le bouche à oreille qui va faire leur succès. Après ça, ben, il va y avoir les très très grosses boutiques qui sont généralement comme plusieurs portes, qui sont comme plusieurs magasins, qui ont des gros volumes d'achats, qui ont les reins solides, parce que ça fait des années qu'ils sont en affaires, ouais. puis que, ben, dans le fond, ils sont capables de supporter un inventaire de plusieurs millions de dollars.
Ah ouais, c'est, des millions, hein?
Quasiment. C'est sûr. Ces boutiques-là vont très bien fonctionner, parce que justement, on les voit partout, on est habitué à les voir, le nom revient depuis des années. C'est des Kiliko, des Primo, des Néron de ce monde. Je pense que tout le monde connaît ces trois grosses boutiques au Québec. Ouais. L'accordé, je mettrais plus dans... comme plein air. Encore plus plein air, ouais, c'est ça. Okay. Mais vraiment, vélo, je te dirais que ces trois-là, c'est quand même des très gros joueurs. Puis là, quelqu'un qui se cherche un accessoire, qui veut du linge, qui veut... Ben, c'est comme, ils ont tout.
Mm-hmm.
Ils ont tout, fait que ça permet vraiment de répondre à la plupart des besoins. Au niveau du service, en général, sont vraiment bons aussi, mais tu tombes pas nécessairement tout le temps sur la même personne. Fait que le lien de confiance avec l'atelier, des fois, est un petit peu plus délicat. Fait que c'est clairement pas l'atelier qui les fait vivre, selon moi. Je parle peut-être au travers de mon chapeau, là, mais de ce que je peux percevoir, je suis pas sûr que ce soit ça qui les fasse vivre. Par contre, mais toutes les ventes, toutes les choses qu'ils peuvent avoir, la sélection de vélos, de pièces, d'accessoires qu'ils peuvent avoir, va vraiment leur permettre de générer beaucoup de trafic dans les boutiques, puis de bien s'en sortir. Puis après, ben, y a la boutique entre les deux.
Okay.
Donc, c'est comme, moi j'appelle ça mid-size.
Okay.
Puis eux, ils ont un méchant défi parce qu'il faut... Ils sont pas capables de supporter autant d'inventaire, d'avoir une aussi grosse sélection que les gros pourraient avoir. Par contre, vu que c'est à plus petite échelle, ben, au niveau des employés, au niveau des mécaniciens, au niveau des vendeurs, ils sont capables de peut-être avoir un petit peu plus de contrôle, fait que d'avoir un service qui parfois pourrait être comme aussi bon, aussi bon que les petites shop core comme je te parlais. Fait que là, ben, ces boutiques-là, selon moi, sont compris dans un carcan de est-ce que je développe pour être plus gros, pour aller comme rattraper les gros joueurs de ce monde, ou est-ce que je décide de redevenir un petit peu plus corps, de choisir un petit peu mes batailles, puis d'essayer de tout miser sur le service. Fait que ces boutiques-là, je pense que c'est pas évident au Québec en ce moment, parce qu'avec justement avec tout Internet, avec tous les gros qui prennent de plus en plus de place, qui sont très très forts au niveau marketing digital aussi. Ils ont du mal à trouver leur place. Fait que c'est vraiment...
Ça doit être challengeant aussi de savoir la sélection des vélos que tu vas avoir dans ces boutiques-là, parce que dans le fond, les gens qui vont venir te voir pour ton service, c'est peut-être plus une catégorie de gens qui vont vouloir certains vélos, mais en même temps, ces vélos-là, ils vont certainement pas avoir le même type de marge aussi.
C'est sûr.
Puis là, après, ces gens-là vont peut-être plus aller sur du en ligne. Fait que ça doit être tout un
défi. C'est pas évident. Fait que tu vois, moi quand j'ai vendu Momentum, ben, j'étais un peu pris dans cette réflexion là aussi. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je veux devenir gros? Est-ce que je veux redevenir plus petit, puis être comme moins de pression financière, puis finalement, ben, Technologe, on est vraiment dans le premier modèle dont j'ai parlé, une petite shop de service. Tu le vois là, c'est pas grand. Je pense qu'on est dans 500 et 600 pieds carrés. Mm-hmm. On a deux postes de travail. On a un mini plancher de vente pour les accessoires. Et puis, on s'en sort très bien comme ça. Alors, on vend des vélos aussi. On fait beaucoup de montage à la carte. Mais ça, on pensait pas que ça roulerait autant cette année. On est ouvert depuis le 6 avril. Puis, on a vendu au-dessus de 45 unités. Fait que, puis, évidemment, vu que c'est des vélos sur commande spéciale, on s'entend que c'est pas des vélos qui se vendent 1 000-1 500 $.
Non, c'est ça.
Pas mal plus que ça. Fait que non, on est super content du modèle qu'on a créé. Puis c'est ça, là, on pensait pas travailler autant cette année. On se le cachera pas. Mais on est super heureux du résultat que ça donne.
Puis moi, ce que je voudrais savoir, c'est à travers tout ça, est-ce qu'il y a une frustration envers certaines compagnies et des magasins ou quelconque, un des trois modèles que tu as défini là, dans le fond, par rapport à justement tout ce qui va être au niveau des commandes puis des choses comme ça, parce que tu sais, en réalité, quand tu penses à ça, il doit en avoir des frustrations, mais eux, ils ont quand même un peu créé un monstre, parce qu'ils vont vendre à certaines compagnies qui vont vendre juste du en ligne, mais ils veulent quand même que les shops achètent des choses.
C'est ça.
Fait que c'est comme si leur mission était vraiment séparée. C'est comme s'ils la respectaient plus. Parce que là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui veut m'acheter tant d'affaires, fait que je vais le faire, mais en même temps, ça détruit un peu le modèle d'affaires des bike shops.
On est vraiment dans un modèle qui change très rapidement. Je te dirais que quand j'ai commencé il y a 10 ans avec Momentum, si on avait été dans le contexte d'aujourd'hui, j'aurais pas passé la première année.
C'est ça.
Mais... avec le modèle qu'on a parti cette année, en comprenant un petit peu mieux aussi les rouages de l'industrie, ben on a quand même été capable de partir quelque chose en 2019 qui fonctionne bien.
Mais ça, c'est ta notoriété aussi.
c'est sûr qu'on a joué beaucoup sur, sur l'expérience qu'on avait dans l'équipe. Pas juste moi, Julien et Audrey aussi beaucoup. Mais on ne se le cachera pas, c'est plus les mêmes, c'est vraiment plus la même réalité. Là. Nous, on est vraiment orienté sur le service parce que justement, Internet ne pourra jamais remplacer ça. Mais au niveau de la vente des pièces et accessoires, comme tu dis, ben c'est sûr qu'il y a certains fournisseurs qui sont un peu moins loyaux envers les bike shops qu'avant. Et c'est sûr que ça peut créer certaines frustrations. Après, ça marche dans les deux sens. Là. Aujourd'hui, mettons une compagnie de lubrifiants, tous les fournisseurs en ont une. Donc, si t'as pas du bon service avec un, ben, tu vas aller voir l'autre et puis c'est tout. Fait que s'ils décident de vendre directement sur Internet puis de pas contrôler les prix, ben, tu vas travailler avec celui qui exerce un petit peu plus de contrôle.
Parce que quand t'amènes ton auto pour le faire réparer, là, t'amènes pas tes pièces avec toi. Là.
Non.
C'est
non.
ça, là.
Non. Mais c'est sûr que dans le vélo, ben, ça, c'est comme une réalité qu'on a depuis quelques années. Là. Les gens arrivent avec des pneus, avec des chaînes, avec des cassettes à installer. Ben, faut apprendre à s'adapter aussi. Là. T'sais, moi, c'est un mal pour un bien dans le sens où avant, le métier de mécanicien de vélo était vraiment pas reconnu. Puis tu pouvais pas faire carrière en étant mécanicien de vélo, là. Tu pouvais pas dire je vais faire ça toute ma vie parce qu'au bout d'un moment, ben, au niveau salaire, ça suivait plus. Puis quand tu commences à avoir des enfants, une hypothèque, ben, faut payer tes comptes. Puis c'était pas avec le taux horaire qu'on avait dans les ateliers que ça fonctionnait. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, on a des chefs d'atelier puis des mécaniciens temps plein qui ont des super bons salaires, qui sont capables d'avoir une belle situation puis d'en vivre à temps plein. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a quelques années, en fait, c'est que les boutiques faisaient majoritairement leur argent avec la vente des pièces et accessoires. Et donc, ben, des fois, l'installation était gratuite, les tarifs d'atelier étaient dérisoires. Ils négligeaient cette partie-là parce que de toute façon, ils y arrivaient pareil à fonctionner. Alors que maintenant, tu n'as plus le choix. Là. Genre, ton technicien, quand il travaille sur un vélo, il faut que tu le factures à ton client là, ou il faut que ça fasse partie de ton prix de vente. Là, ce qui n'était pas le cas avant, qui était très, très mal calculé avant en fait, par les boutiques. Là. Fait que c'est vraiment l'évolution que ça a mais pris.
Moi, ce qui m'intéresse,
c'est la valeur du travail est comme vraiment plus reconnue qu'avant. C'est sûr que les vélos sont plus techniques qu'avant. Ouais. Les suspensions, tout ce qui est hydraulique, les freins, la technicité, les géométries, tout ça, là, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile à s'y retrouver. Fait que quelqu'un qui connaît pas ça, oui, sur Internet, ça va certainement coûter moins cher, mais si t'as pas eu les conseils avant puis le service qui va avec après, ben... T'sais, tu vas faire un ou deux gros achats sur Internet, tu vas être déçu, frustré du service que tu as si tu as commandé la bonne chose en partant. Ça se peut que tu commandes deux ou trois fois avant d'avoir la bonne affaire. Puis après ça, tu t'aperçois qu'au final, ça te coûte plus cher parce que justement, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent, tu as été beaucoup de frustration alors que c'était aller dans un bike shop avec du bon service, des bons conseils directement. Ben, ouais. Ça aurait peut-être été, l'expérience aurait peut-être été meilleure.
Puis, tu as surélevé un bon point par rapport à justement amener une carrière qui était peut-être en difficulté exactement. À maintenant quelque chose qui est un peu plus reconnu. Mais sans, mettons, rentrer dans le long process, c'est quoi l'espèce de processus qui, toi, t'a amené à trouver cette solution-là? Parce que clairement, t'as trouvé un peu la recette pour amener ça d'un point A à un point B. Là.
Ben, c'est sûr qu'on apprend de nos erreurs.
Ouais, ouais. Et c'est quoi les erreurs, mais, justement?
En fait, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est... propriétaire d'une boutique de vélo, t'as pas le choix d'avoir des bonnes aptitudes en gestion puis de savoir compter parce que sinon assez rapidement tu vas te planter. Avant c'est qu'on avait quand même des marges de profit qui étaient intéressantes avec les pièces et accessoires, c'est de moins en moins le cas. Et même si on faisait des erreurs, on était quand même capable de compenser généralement. Je te dirais qu'aujourd'hui les erreurs coûtent vraiment plus cher plus rapidement, donc faut faire attention à ces choses puis faut vraiment tenir ça serré. Puis au niveau du service, ben c'est sûr qu'avec Technocycle, ben nous c'est du service qu'on vend, fait que l'expérience de ce côté-là est comme m'a peut-être comme aidé un petit peu à comprendre certaines choses plus rapidement que ce que j'aurais pensé. Puis ben tu t'aperçois que c'est ça là dans le fond, quand tu donnes du bon service à quelqu'un, la personne n'y est pas là pour magasiner un prix. Là. Il est là pour que son vélo, quand il sorte droit, puis qu'il veut avoir confiance, il veut pas avoir de problème avec ça. Puis ben, quand tu vois que tu es tout le temps débordé, puis que tu n'arrives pas à rétrécir les délais dans ton atelier, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à monter les prix. Puis c'est là que tranquillement tu vois ben, jusqu'où tu peux aller, jusqu'à combien les gens sont prêts à payer pour le service que tu leur donnes. Puis ben, c'est comme ça que tu vois si ça peut être intéressant ou pas aussi. Fait que c'est sûr que si t'as dans ta région quelqu'un qui casse les prix au niveau du service, ben ça risque d'être un petit peu plus difficile à implanter. Mais si on regarde, mettons, les toreurs qui sont pratiqués dans les garages automobiles, je suis pas gêné de charger les toreurs que je charge dans mes boutiques, que ce soit à Saint-Sauveur ou à Montréal.
Ouais, parce qu'on s'entend que avoir un vélo de montagne, avoir un vélo de route, tout ça, de haute qualité, tu sais, ça a un prix aussi.
Exactement. Hein? C'est ça. Exactement. Quand t'as des vélos de plusieurs milliers de dollars, tu veux pas que ce soit n'importe qui joue sur tes vélos. Là. Les erreurs peuvent coûter très très cher.
Puis sur un. Tu sais, comme si on transitionne justement, comme dans l'évolution aussi des bike shops, je pense qu'il y a aussi une grosse évolution dans le domaine du vélo de montagne dans les dernières années.
Oui,
une grosse popularité de l'enduro, l'all mountain, peut-être un peu le cross country. Je pense que tous les termes peuvent être bons. Là. On peut appeler ça enduro.
Trail enduro. Ouais, c'est vraiment.
Fait que ça vient d'où? Pourquoi c'est arrivé à comme ça? Moi, on dirait que j'ai débarqué un peu du domaine du vélo dans les dernières années. J'ai rembarqué parce que je me mettais à entraîner de plus en plus de monde de vélo de montagne. Fait que je veux pas. J'avais besoin d'être un petit peu plus sur le terrain, voir qu'est-ce qui se passait. Puis là, ce que je me suis rendu compte quand j'ai réembarqué, j'ai juste réalisé qu'à quel point que ça l'avait changé. Qu'est-ce qui s'est passé de même là, depuis.
Ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Moi, ce que j'en comprends, puis je trouve que la direction que ça prend, c'est vraiment cool, c'est que ben, le monde, les passionnés de vélo de montagne, comme nous, que ça faisait comme au-dessus de 10-15 ans qu'ils en faisions, sont encore là.
Ouais.
Puis les gens qui sont venus au vélo au Québec, c'est quand même assez particulier comme marché, mais principalement par le vélo de route, par tous les défis philanthropiques, les défis contre le cancer, les défis Pierre Lavoie, etc. Ouais, ouais. Les gens se sont beaucoup mis au vélo, j'ai l'impression au travers de ça, il y a beaucoup de clubs cyclistes de vélo de route qui se sont créés. Puis après ça, tranquillement, les gens, l'hiver, ils ne savaient pas quoi faire.
Ouais.
Le fat bike est arrivé, on a commencé à avoir de plus en plus de monde sur le fat bike. Le fat bike est un petit peu moins technique que le vélo de montagne, fait que les gens de vélo de route que t'as embarqué là-dedans,
ouais.
ça a comme fait des petits. Puis là, ben, en ayant joué dans le bois l'hiver, l'été, ils ont le goût d'essayer aussi. Ouais. Fait que là, ils ont comme loué des vélos de montagne, ça a commencé à faire des petits au niveau du vélo de montagne aussi. Puis quand le monde sont tannés de se faire frôler par des voitures et tout ça, ben, tranquillement, pas vite, ils migrent vers ces disciplines-là.
Ouais.
Parce que c'est beaucoup plus sécuritaire, même si le monde pense qu'on est plus casse-cou que la moyenne quand on fait du vélo de montagne. Au final, les chutes, elles font pas mal moins mal en général qu'une chute en vélo de route. Fait que ça, c'est une des explications que je vois au niveau du Québec. Puis au niveau global en général, ben, les géométries des vélos ont beaucoup évolué dans les dernières années. Les diamètres des roues, les diamètres des pneus, la qualité des composantes, la fiabilité des composantes a vraiment augmenté. Fait qu'on a des vélos qui sont beaucoup plus efficaces au pédalage aujourd'hui, beaucoup plus permissifs en descente, beaucoup plus stables, beaucoup plus agréables, beaucoup plus le fun à rouler. La position est vraiment mieux qu'avant. Je pense que quand tu t'es racheté un vélo, tu as pu voir la différence.
Il y a vraiment un barème de prix différent. C'est ouais, beaucoup plus c'est de ça. Modèles c'est accessibles.
Ça. Fait que c'est vraiment rendu une activité le fun puis plus accessible qu'avant. Puis l'autre grosse influence au Québec, selon moi, pour le facteur de développement pour la discipline, c'est vraiment la qualité des réseaux qu'on a ici. Parce que même si on n'a pas énormément de relief au niveau du Québec, au niveau de la province, tous les terrains qui sont aménagés, que ce soit dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est, dans la région de Québec, etc., sont vraiment super bien exploités, les trails sont super bien entretenus. Il y a vraiment une gang de passionnés dans chaque région qui est très active, qui développe. Puis il y a tout le temps des nouvelles trails, il y a tout le temps. C'est fou là. Je compare par rapport à l'Europe parce que j'ai encore la chance de rentrer régulièrement puis de rouler là-bas. Puis là-bas, on a un terrain de jeu comme hallucinant, mais qui n'est pas exploité, ou mal exploité. Ici, on a comme moins de possibilités au niveau du relief, etc. Mais par contre, le terrain est extrêmement bien exploité puis maintenu. Là.
Mais je me souviens comme dans mes dernières années où ce que je compétitionnais puis où ce que je roulais beaucoup, c'est que il y avait comme un début d'un mouvement où ce que les gens s'impliquaient justement pour amener vraiment. Justement les trails. Puis en même parallèle, moi mettons que je parlais à quelqu'un qui faisait pas de vélo, tu sais, il y avait le monde qui faisait du vélo, puis il y avait le monde normal, si on veut.
C'est ça.
Puis, il n'était pas question que je parle de mes affaires de vélo au monde normal. Non, parce qu'il n'y a personne là-dedans qui aurait compris. Il n'y a personne là-dedans que je voyais que j'aurais pu influencer
à ce moment-là.
À ce moment-là. Ouais. Puis, aujourd'hui, en 2019, mais en 2018, peu importe, je parle à du monde, j'entraîne des gens, je leur dis, mettons, je suis en vélo de montagne, etc. Ah ouais, moi aussi. Puis là, le monde est comme. OK. Fait que là, dans le fond, il y a toute une nouvelle gamme de gens qui... Tout le monde est au courant, là.
Exact.
Tout le monde fait du vélo. Tout le monde fou. A comme... C'est ah, fou. Ben oui, moi aussi, là, j'ai commencé vélo montagne l'année passée. Comme si c'était plus... C'est beaucoup plus simple
exact.
À vouloir commencer qu'avant, là.
Ouais, puis il y a beaucoup plus, comme je te dis, les réseaux sont beaucoup plus accessibles. Il y en a beaucoup plus,
ouais.
Plus proche de Montréal. Si on regarde l'exemple de Oka,
ouais.
C'est malade ce qui s'est fait, là. En 4-5 ans, commence à développer, puis l'achalandage qu'il y a maintenant, là, sur les fins de semaine, on le voit, là, les stationnements sont pleins, que ce soit Oka ou Chantecler à Sainte-Adèle. T'as comme, tu peux avoir 200-300 véhicules sur le stationnement dans la fin de semaine, puis ça arrête pas.
Je sais pas si on apprend un peu de ce que les États-Unis ont fait ou l'Europe a fait.
Avec je te dirais plus les États-Unis.
On a appris de ce qu'ils ont fait?
Ouais. Puis là, c'est si tu regardes ce qui s'est fait au Vermont avec Burke, justement, puis c'est...
Ouais.
Je pense que à partir de là, les municipalités, les MRC ont vu le potentiel touristique avec ça, puis les retombées économiques que ça peut avoir au niveau local, puis ils ont commencé à embarquer.
Ouais.
Fait que je pense que c'est vraiment ça la clé.
Tu vas manger, hein, où est-ce que tu vas aller, exact. Tu vas acheter des choses, il y a tellement de facteurs là, qui peuvent
c'est fou.
Sans même que ce soit spécifique au vélo, justement.
Exact.
Puis, Ça m'amène à quelque chose que je voulais parler parce que je crois aussi que, tu sais, là c'est un mix entre ce changement-là puis le digital. Avant, on avait l'espèce d'athlète commandité.
Exact.
Par des compagnies, puis il y avait plusieurs ratios de types de commandite, professionnel, semi-professionnel, un peu plus amateur, équipe de vélo, tout ça. Puis c'était un moyen un petit peu pour que les athlètes. Que ça leur coûte moins cher, qu'ils puissent compétitionner un petit peu plus, les athlètes un peu meilleurs avaient des meilleurs deals, peu importe, tout ça. Puis, ce qui est fou, c'est qu'à cette époque-là, l'influence était directement reliée déjà aux gens qui faisaient du vélo.
C'est ça.
Puis là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on voit beaucoup plus de brand ambassadors qui sont pas nécessairement des coureurs.
Non, c'est ça. Ben, si on regarde l'exemple de Jade qui travaille au café en haut,
mm-hmm.
qui fait du mountain bike depuis... pas très longtemps finalement, mais qui est comme une passionnée de plein air, puis comme ça essayer comme plein de choses. Ben, c'est ça les brand ambassadeurs pour Marin, pour Peppermint, pour Oakley, puis c'est ça là, c'est vraiment.
Ah ouais, hein?
Elle fait comme quelques courses d'enduro pour le fun dans la saison. C'est pas une personne qui s'entraîne pour faire des résultats. Par contre, c'est sûr qu'au niveau.
C'est vrai qu'il y a une bonne influence.
Au niveau digital, ben c'est ça, elle fait des belles images, comme les compagnies qui la supportent tripent sur sa personnalité puis la façon dont elle communique là, sur ses activités.
Penses-tu que cette transition-là, justement, d'aller vers quelqu'un qui est peut-être plus comme... Comment est-ce que je peux reformuler cette phrase-là? Je veux juste définir qu'en ayant quelqu'un que les gens peuvent mieux s'identifier
exactement. Puis c'est ça, coureur. Puis le monde font du vélo pour le fun. Là.
Ouais.
Avant, les gens qui faisaient du vélo, on le voit là, tu sais, on se retrouvait tous sur les Coupes Québec, les Coupes Cannes, puis c'était des beaux événements, on avait du fun pareil. Mais c'était comme, ça impliquait qu'on allait faire une compétition, qu'on allait courser soit en cross-country, soit en descente, parce qu'à l'époque, il y avait comme juste ça. Tu sais, maintenant, je sais pas si tu as eu la chance de faire les Wildside, mettons, les courses des Wildside ou d'autres formats d'enduro, Bimax, etc. Tu sais, c'est le fun parce que tu peux rouler, peu importe le niveau que tu as par rapport à tes amis, tu peux faire la journée de course avec eux parce que le départ des stages, c'est un à la fois.
Ouais.
Fait que même si ton ami est plus fort, ben, il va partir avant toi, tu vas partir 30 secondes après lui, puis tu sais que tu n'iras pas le rechercher. Puis du coup, ben, tu passes entre les différentes spéciales, tu passes la journée avec tes chums, puis
t'as du fun. Justement, j'avais trois coureurs que je coach, qui eux, ils l'ont fait, le circuit au complet, puis cette année, ils ont eu leur plus grosse saison en termes de nombre d'événements. Là, ils sont brûlés, là,
c'est sûr, c'est relax. C'est sûr qu'à la fin de la saison...
Mais il n'y a jamais eu ça avant, autant de compétition, puis autant d'engouement, justement, vers ça.
Ouais.
C'est incroyable.
Puis c'est des compétitions qui sont accessibles. T'as le niveau compétitif, mais t'as le niveau comme découverte, si on veut, ou plus sportif.
Ouais.
Et du coup, ben, n'importe qui peut y prendre part. Là, c'est comme... c'est le fun.
Ouais.
Quelqu'un qui veut quand même garder cet esprit de compétition un peu, ben, ce genre d'événement-là répond parfaitement aux besoins.
Mm-hmm. 100%. Puis il y a aussi l'espèce de mouvement fat bike qui a commencé.
Ouais, ouais. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Là, parce que, tu sais, on parlait de Chanteclair tantôt que le stationnement est plein l'été, mais l'hiver, c'est la même chose.
C'est vrai?
Ouais, tu peux avoir le stationnement qui va être plein sur des belles journées l'hiver, là, puis tu vas croiser comme des dizaines de personnes dans les trails. c'est assez hallucinant.
Holy shit, ouais. Hein, quand même.
Puis tu sais, nous on se le cachera pas, là, l'été on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de rouler autant qu'on voudrait, mais l'hiver, vu que c'est plus tranquille, ben, on est plus souvent dans les trails. Moi je fais plus de fat bike l'hiver que je fais du vélo de montagne l'été, parce que ben, d'une, je suis à côté des ouais. sentiers, puis de deux, c'est ça, on a beaucoup plus de temps, fait qu'on peut passer un peu plus de temps dans le bois, hein, sur les vélos. Là.
Puis c'est quand on pense à, mettons, montagne, ou comme, mettons, justement, Charles-Claire, ou quelque part comme de populaire, où je suis un peu plus à l'aise à Bromont, comment est-ce qu'on peut avoir confiance, mettons, là, il y a du développement dans ces pistes-là, tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs immobiliers qui achètent des terrains, qui, tu sais, on le voit à Bromont, ils ont détruit une tonne de pistes. Il y en a eu d'autres qui se sont construits, mais that kind of happens.
Je suis pas très au courant de qu'est-ce qui s'est passé exactement à Bromont, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont quand même acheté du terrain. Mm-hmm. Il y a une OBNL qui s'est créée, ils ont acheté du terrain pour sécuriser des parcelles,
ouais.
pour pouvoir développer des trails. Puis c'est sûr qu'on a vraiment un enjeu majeur par rapport à ça dans les années à venir. Si on regarde au niveau des Laurentides, je pense que c'est même plus problématique que dans les cantons de l'Est. Sainte-Adèle, ben, on parle de Chantecler encore une fois. Chantecler, dans le fond, la personne, qui le propriétaire, qui depuis au-dessus d'une dizaine d'années, laissait gentiment les personnes développer puis utiliser son terrain pour le vélo de montagne. On savait qu'on était sur du temps emprunté, puis qu'éventuellement il allait avoir du développement qui allait se faire. Ça va commencer, je pense, cet hiver. Par contre, ben, la ville de Sainte-Adèle a très très bien réagi, ont été très très proactifs. La nouvelle mairesse a vraiment un plan en arrière de la tête par rapport à ça. Puis le projet du Mont Loup-Garou, qui est quand même quelque chose de très très impressionnant, est en bonne voie. Donc ils sont en train d'acheter, je pense que c'est 11 terrains qu'ils sont en train d'acheter. Il y en a déjà 5 sur 11 qui sont déjà acquis par la ville, pour justement comme créer un nouveau parc, le parc du Mont Loup-Garou, qui va être 4 fois gros comme le Chantecler, dans la même municipalité, pour justement pouvoir développer des nouvelles pistes, puis pérenniser les pistes, les sécuriser, pour pas justement qu'il y ait de développement immobilier ou qu'on perde encore d'autres sentiers.
C'est vraiment cool tout ça, mais comme à quel point est-ce qu'on a... Tu sais, comme ça aurait pu être fait...
Avant.
Mais ça aurait pu être fait en plus de garder ce qui est déjà là. Comment est-ce qu'il faut qu'on bâtisse des condos avant de réaliser que finalement, il n'y a pas assez de monde pour habiter dedans?
Ouais, mais ça, après, t'as tout le temps une histoire de... Tant qu'à moi, après, les MRC puis les municipalités ont leur responsabilité là-dedans. Je veux dire, si le maire décide qu'il veut rentrer plus de taxes pour que sa ville fonctionne bien, ben, il va donner plus de passe-droits pour construire des condos, mais on va perdre des sentiers, là. C'est pas pour rien qu'à Saint-Sauveur, on a plein air Saint-Sauveur qui s'est créé, puis justement pour essayer de pérenniser les sentiers qui sont là, puis qui s'en perdent le moins possible.
Ouais, c'est ça.
Y en a vraiment un problème majeur par rapport à ça. Et après, ben, c'est ça, là, c'est de surveiller de près, puis de quand on voit des situations un petit peu irrégulières, de ne pas avoir peur de communiquer là-dessus avec les médias sociaux, avec tout. Maintenant, on a des vecteurs de communication très forts, fait que c'est plus facile qu'avant de dénoncer ces pratiques-là, puis de sensibiliser les gens à l'importance de préserver tout ça.
Ouais. Quelque chose que j'ai pas parlé tantôt, puis que je voulais justement faire un parallèle avec l'évolution justement du vélo de montagne, qui est devenu beaucoup plus populaire. On a vu aussi une très belle croissance dans les femmes dans l'évolution du vélo de montagne, justement. Ça aussi, c'est une question que je me pose. Ça vient d'où, ça?
Je te dirais que avant, les compagnies n'avaient rien à leur proposer.
Ah, okay.
Si tu regardes au niveau du linge, au niveau des casques, les filles qui faisaient du vélo de montagne, regarde 10 ans en arrière, là, elles n'avaient pas des petits kits qui matchaient, puis elles n'avaient pas des casques qui leur ressemblaient. Puis, je pense que de ce côté-là, les premières compagnies à avoir emboîté ce mouvement-là ont très bien joué leur carte, parce que ça a permis justement de susciter de l'intérêt de la part des filles. Au niveau des bikes, je te dirais que tant qu'à moi, il n'y a pas de vélo spécifique fille, spécifique gars. L'important, c'est selon la grandeur, mais la morphologie, puis la pratique de la personne, d'arriver à y trouver quelque chose qui correspond le mieux pour elle. Après, c'est sûr qu'il y a des couleurs spécifiques. Des fois, tu sais, si tu regardes, mettons, Santa Cruz puis Juliana, c'est les mêmes cadres, mais c'est les couleurs qui vont changer. Puis les cadres, si tu regardes les specs en tant que tel, les géométries, c'est la même chose. C'est sûr qu'il va y avoir des accessoires particuliers, les selles, mettons, généralement, vont être un petit peu plus larges chez les femmes, de par leur morphologie. Au niveau des guidons, si t'as une des épaules moins larges, ben, tu vas rouler un guidon plus étroit. Fait qu'après, c'est ça, là, c'est vraiment de s'adapter à tout ça. Mais là, les compagnies ont. À un moment donné, il y a des compagnies qui ont compris, qui ont commencé à jouer cette carte-là. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Puis, ben, comme je te disais tantôt, les vélos sont plus. Sont mieux conçus qu'avant, sont plus le fun à rouler qu'avant. Fait c'est sûr que ça doit aussi jouer dans la balance.
Penses-tu que c'est une génération aussi d'hommes qui sont beaucoup plus ouverts oui, à amener leur blonde? Parce que tu sais, j'étais dans le fil d'attente justement la semaine passée à Burke, en attendant le télésiège. Puis je me retournais, puis c'était juste des filles. Il y avait plus de filles que de garçons qui attendaient. Il y a un groupe de 6 filles en avant de moi, 3 filles en arrière avec leur chum. Les filles étaient ensemble, les filles en arrière avec leur chum. Il y avait plus de filles que de gars. Puis à l'époque, quand moi je faisais de la descente, c'était juste des gars. Il y avait quelques filles,
mais c'est ça là. C'était, tu les comptais sur le doigt de la main.
Mais c'est-tu comme notre génération qui est comme plus.
Peut-être. Plus émancipé, plus. Je sais pas, plus ouvert. Je sais pas comment. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est vraiment le fun. Puis. Je sais pas si c'est comme ça partout, par exemple. Ouais. En Amérique du Nord, je pense que oui. En Europe, de ce que je peux voir, la proportion n'est pas aussi grosse qu'ici.
Ah, ça n'a pas changé encore?
Ben, de ce que je perçois, je vis plus là-bas, j'ai comme l'impression que la tendance va dans le même sens pareil. Là, qu'on en voit de plus en plus, puis qu'il y a de plus en plus d'intérêt aussi de la part des filles pour le vélo de montagne.
Sharp.
Puis on n'a pas parlé de vélo électrique encore.
Oh my god, oui.
Mais nous, ça, c'est un gros morceau dans les années à venir aussi. Là, on voit que ça a donné un second souffle à l'industrie. Et je pense que c'est sûr qu'on ne partira pas une polémique tout de suite. Mais
pourquoi ça a donné un second souffle à l'industrie?
Parce que ça, comme on est allé chercher des nouveaux cyclistes avec ça.
Ouais.
Il y a différentes clientèles. C'est sûr que la première clientèle qu'on est allé chercher, c'est les gens qui vont travailler à vélo. Mm-hmm. Tout ce qui est commuting, le fait d'avoir un vélo électrique, les gens qui avaient 10-15 km à faire, qui trouvaient ça long, puis qui arrivaient en transpiration, puis qui ne pouvaient pas nécessairement avoir accès à une douche ou quoi, c'est sûr que c'était un frein pour aller travailler avec son vélo. Maintenant, avec un vélo électrique, ton 10-15 km, tu le fais en 30-40 minutes. Et puis, tu arrives au travail, t'as pas transpiré, t'as même pas besoin de te changer, tu peux aller travailler comme seul. Ouais. Moi, j'ai des clients qui font ça, puis c'est vraiment le fun de voir aller.
Puis en plus, c'est écologique. Puis
exactement. Puis c'est sûr qu'à vélo de montagne, il y en a beaucoup de polémiques par rapport à l'érosion des sentiers. Mais moi, ce que je vois, c'est que justement, des gens qui venaient plus rouler parce qu'ils étaient moins en forme, des nouveaux parents, des gens qui vieillissent, des gens qui ont des problèmes de santé, qui peuvent plus suivre leurs amis. C'est plate là, mais c'était comme un frein à leur pratique.
Ouais.
Le fait de pouvoir embarquer sur un vélo électrique puis d'ajuster le niveau d'assistance, ils vont pouvoir aller rouler avec leur chum.
Ça permet de pas juste faire, mettons, du downhill, mais aussi une autre activité comme du cross, l'enduro.
Exactement.
Je pense qu'il y a un gars dans l'Ouest, justement, un pro rider, justement, son père commençait à pouvoir rouler avec lui. Son père.
Ben, tu sais, moi, c'est le meilleur exemple que je donne quand j'ai des clients qui magasinent. Je dis, tu sais, moi, mon père en vélo de montagne, on roulait quasiment plus ensemble. C'est sûr qu'à la minute qu'on va avoir l'occasion de rerouler ensemble, s'il veut pas venir, je vais l'embarquer sur un vélo électrique. Puis c'est sûr qu'il voudra plus.
C'est ça.
Il va tout le temps vouloir revenir avec nous à chaque fois.
Parce que la différence de vitesse dans la descente se rapproche. T'sais, peu importe. Comme l'attente est beaucoup moins élevée.
L'attente est beaucoup moins élevée, mais c'est dans les portions
de
montée où tu t'essouffles ou que c'est plus. Que ça peut être plus problématique. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais des chums qui initient leur blonde au vélo ou l'inverse en passant.
Ouais.
C'est le même principe.
Ouais.
S'il y a un gros écart de niveau entre les deux personnes, les personnes vont quand même pouvoir rouler ensemble. Puis ça va être le fun. En Europe, là, j'ai des amis qui ont des boutiques. Là, puis ce qu'ils m'expliquaient, c'est que des gens qui roulent en vélo de route depuis des années, qui font des cols toutes les fins de semaine dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc., que les femmes suivaient plus ou les hommes, que les conjoints suivaient plus, maintenant, souvent, l'autre personne va s'acheter un vélo électrique. Puis là, ils vont passer toutes les fins de semaine ensemble à rouler, à faire les balades. Puis c'est le fun parce que ils ont comme retrouvé la passion de rouler ensemble. Puis c'est stimulant pour tout le monde.
Moi, quand je me suis remis justement à faire du bike, ce que j'avais de la difficulté avant, c'est que il fallait vraiment avoir ton bike. Moi, j'adore faire la descente, c'est ça mon dada, mais je trouvais aussi que c'était pas une réalité à l'année, donc tu sais, un vélo de cross-country était beaucoup plus
versatile.
Donc tu sais, j'avais un vélo de cross-country, un vélo de descente. Mais le vélo de descente a pris le bord. Puis là, avec notre nouvelle ère, justement, t'as tout le choix. T'sais, t'es passé vite, t'es passé en forme, bike électrique. Mm. Tu veux faire de la downhill et du cross, un bike d'enduro. T'sais, ouais. T'as vraiment l'option d'avoir juste un choix.
Ah non, c'est fou maintenant, là. On est vraiment chanceux. C'est sûr qu'après, c'est facile à s'y perdre, c'est facile à se créer des gros besoins. Là, parce que,
mais là, j'en ai un.
Tu pourrais avoir un besoin par pratique, puis tu te ramasses avec 10 vélos dans le garage. Là, ouais. Ça va vite. Là.
Oh, oui, vraiment.
Mais ça reste que c'est une activité physique, c'est le fun. Puis ça, oui, c'est un sport qui coûte quand même cher, mais... Le bonheur puis la santé que tu te procures avec ça fait que
ouais.
tu t'y retrouves pareil.
Mais tu dis que c'est cher, mais dimanche passé, je suis allé au cinéma, tu sais, puis la soirée a coûté tellement cher, tu sais, tout coûte cher, tout dépend du choix que tu fais un petit
exactement.
Peu. L'investissement d'un vélo peut sembler cher au début, mais au bout de la ligne, c'est quelque chose que tu gardes longtemps, hein,
c'est
des activités qui ne coûtent rien aussi, à moins que tu t'achètes une passe, puis c'est rien.
Pour l'accès au sentier, puis c'est tout. Là.
C'est ça, exactement. Hein. Ça coûte rien. Exactement. Ton temps, il est là, puis t'es plus en forme.
C'est ça.
Alright, cool man. Écoute, moi je sais que t'as des choses à faire aujourd'hui. J'ai trois dernières questions à te poser, puis elles sont bien difficiles, tu vois. Donc, la première question, tu l'as quand même déjà faite, donc je vais quand même te la reposer. Si t'avais un pays à choisir pour déménager, soit refaire ta vie au complet,
okay.
fuck this bike shit, moi je m'en vais vivre sur une plage, whatever. Tu changes de carrière ou justement tu veux refaire le même pattern que t'as fait là, mais tu peux pas choisir la France puis tu peux pas choisir le Canada. C'est où que tu vas?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'allais te dire l'Ouest canadien parce que c'est.
Ouais.
Je suis arrivé au Canada dans le
l'objectif
de m'établir là-bas. Ouais. La vie a fait que les choses ont été différentes un petit peu, mais je suis vraiment satisfait de la vie que j'ai aujourd'hui. Je sais pas, peut-être le Népal. J'ai eu la chance de rouler quelques mois au Népal avant d'arriver au Canada, justement. Puis d'un point de vue mountain bike, c'est incroyable. Puis au niveau des
de la vie,
la simplicité des gens, l'accueil que j'ai eu, puis le climat, etc., c'était vraiment quelque chose, là. J'avais vraiment aimé ça.
En plus, ils sont, depuis des dernières années, ils sont très forts sur comment la pollution de la ville a commencé à diminuer de plus en plus.
Ouais, il y a quand même des gros défis encore avec ça. Là, toute la vallée de Katmandou, c'est quand même vraiment problématique. Ouais. Moi, j'étais plus dans le coin de Pokhara, qui est comme la deuxième ville du pays, au pied de la Napurna. Puis c'était vraiment quelque chose. Là. C'était vraiment une belle expérience. C'est vraiment des très beaux souvenirs.
Au festival de films de Banff, il y a un gars qui ont pris que c'était un Népalais, il voulait être professionnel en bike, il gagnait tout au Népal, il a tout build lui-même, il a soudé des derrière le frame sur un vieux frame, il s'est fait des suspensions, c'était une grosse affaire. Je pense qu'à la fin, il était commencé par Giant, je sais pas trop, puis... Non, Yeti, okay. Ils ont donné un bike, puis là, tu le voyais,
je l'ai vu,
c'est vraiment cool. Deuxième question, quand Pierre il rentre dans une nouvelle pièce, là, c'est quoi sa chanson thème? C'est quoi la toune qui part dans les oreilles des gens? Elle est dure, celle-là. I know.
C'est une bonne question.
Je te laisse le temps pour y penser.
Je suis pas sûr de. Qu'est-ce qui me rentre dans la tête à moi?
Qu'est-ce qui rentre dans la tête des gens? T'sais, c'est quoi la toune qui t'identifie? C'est quoi ta chanson thème? Ça peut être ta toune préférée quand t'embarques dans ton auto aussi. Là.
C'est vraiment une bonne question. Les collègues de travail te diront que j'écoute jamais de musique, fait qu'il doit pas y avoir grosse toune. C'est vrai que j'en écoute pas beaucoup. Genre, le fait de pas avoir de musique de fond, mettons, me dérangera pas. Mais quand je travaille ici, les gars capotent. Là. Dès qu'il y a plus de musique, ils sont comme.
Ah ouais.
Genre, hein. Faut en remettre. Là. Puis moi, c'est. J'aime le silence. Là. Mec, ça me dérange pas, mais. Aucune idée.
C'est pas grave. Tu me le
dirais. Je te le dirai plus tard.
Pas trop. Peut-être après la prochaine question.
C'est ça.
La prochaine question, c'est. Quel est le seul conseil? Mettons que tu aurais le droit de dire un conseil à un Pierre il y a 10 ans, ce serait quoi?
De toujours rester dans l'action, puis de toujours garder ses objectifs en tête. De ne pas s'éparpiller.
Donc toujours rester dans l'action.
Ouais.
Et toujours garder
ses objectifs en tête.
Okay.
Les avoir comme clairement définis, clairement comme établis. Parce que si tu perds le focus, c'est facile de dévier de ta trajectoire, puis c'est facile après de partir dans des chemins de traverse, puis après c'est difficile des fois de revenir sur
le droit chemin. Track, là. Est-ce que tu penses que c'est important de se donner des gros objectifs, justement, parce que plus difficile que ce que tu penserais atteindre?
Oui, puis après, c'est de les découper en différents morceaux, en différents jalons, puis d'y aller comme une étape à la fois, là, de suivre le plan, puis d'y aller une étape à la fois.
Merci Pierre.
C'est plaisir.
C'est vraiment cool.
Merci à toi.
On sait qu'on peut te rejoindre, les réseaux sociaux, es-tu fort là-dessus?
Je suis fort là-dessus, pas tant que ça, honnêtement. Mes associés sont pas mal plus forts que moi.
Ouais, ils sont bons, ils font du bon stock.
J'essaye de... Je mets des photos un petit peu sur Instagram. Je publie de moins en moins sur ma page Facebook. J'essaye de m'éloigner de Facebook le plus possible. Mais c'est sûr que si on regarde la page de l'atelier, si on regarde la page du Café au Loge, la page de Technocycle, on essaye d'être quand même assez actif. Quand on est moins actif, c'est qu'on est très occupé généralement.
Cool. Je mettrai les liens.
Là, c'est ça, le Technologe. On parlait de marketing digital. On a tellement été occupé cette année qu'on n'a jamais eu le temps de développer le site internet. Okay. Là, d'ici 15 jours, on devrait être en ligne avec l'atelier Technologe aussi. Là.
Perfect, man.
On a un peu plus de temps pour travailler là-dessus.
Awesome.
Voilà.
It's been great. See ya.